bonjour à tous. Liliane sur Radio Grand Ciel pour la revue de presse des mensuels chrétiens. Je suis en compagnie d'Émilie et seulement d'Émilie. Bonjour.
Désolée Liliane. Bonjour à tous.
Muriel est absent, donc il va nous manquer une partie de la revue.
Et oui.
Alors, nous parlerons de Panorama.
Oui, et du monde des religions.
Du monde des religions, et puis aussi, moi j'ajouterais des cahiers croire.
Oui.
Donc, Émilie, si tu veux bien commencer
bien
pour
sûr,
la partie.
Bien sûr, je veux bien. Alors, dans le monde des religions, je pense que tu y reviendras, il y a un gros dossier sur Noël. Ouais. Alors, c'est peut-être pour ça que c'est Noël avant l'heure, dans la rubrique culture, avec des tas de livres, vraiment des ouvrages passionnants. J'aurai l'occasion de vous en reparler le mois prochain, puisque c'est le numéro de novembre-décembre. Il a bien fallu choisir, et donc pour cette fois, eh bien, j'ai choisi un livre qui est une affaire de spécialiste éclairé. Alors, non seulement éclairé, mais aussi à l'aise financièrement. Parce que oui, désolé, le dernier livre du rabbin Marc-Alain Wachnin n'est pas pour toutes les bourses. La genèse de la genèse illustrée par l'abstraction, c'est le titre de ce beau livre qui coûte la bagatelle de 230 €.
Oui.
Mais, chers amis, il les vaut certainement. En tout cas, c'est ce que nous promet Aurélia Hetzel, qui le chronique pour Le Monde des Religions. Marc-Alain Wachnin, rabbin, mais aussi philosophe, passionné par l'exégèse biblique et par la transmission des différentes écoles juives d'interprétation, est aussi un amoureux de la langue hébraïque, de ses racines, de sa grammaire. Il a entamé il y a plus de 30 ans un travail de traduction et d'interprétation. Alors, ce n'est pas le premier, bien sûr, et il ne sera pas le dernier, mais il propose une lecture toujours renouvelée de la matière première. Renouvelé et influencé par ses nombreux centres d'intérêt, parmi lesquels je n'ai pas encore cité, la poésie et l'art pictural. Et justement, ce dernier livre allie tous ces éléments. Sur la page de droite, on trouve un verset de la Genèse en hébreu, à côté sa translittération et aussi bien sûr sa traduction inédite. Et sur la page de gauche, on va trouver une œuvre abstraite, donc une peinture, du début du XXe siècle à nos jours. 108 peintures au total. L'abstraction pour symboliser ces versets qui forment les 11 premiers chapitres de la Bible. Drôle d'idée, et pourtant, la magie opère, puisque les textes sacrés sont eux-mêmes des œuvres mouvantes, jamais fixées, qui parlent d'une vérité intérieure, propre, bien sûr, à chaque lecteur. Marc-Alain Wachnin a beaucoup travaillé sur la Genèse, il aime profondément ce texte. Il n'est pas le seul, puisque dernièrement, notre Simon Martin, m'a fait découvrir un texte d'un autre auteur juif bien connu, André Chouraki, dans lequel il parle de la Genèse comme l'un des poèmes les plus essentiels de l'humanité. Poème, le mot est lâché. Aurélia Hetzel, du Monde des Religions, décrit le livre du rabbin Wachnin comme de la poésie biblique. Un superbe ouvrage donc, aux éditions Diane de Sellers, pour la somme pas modique du tout, de 230 €. C'est vraiment un livre magnifique. Alors comme j'ai un petit peu le temps aujourd'hui, je reviendrai sur un livre qui m'a fait sourire et qui m'a aussi intriguée, présenté dans Panorama, donc de novembre. Il est très sérieux ce livre, hein, malgré son titre amusant qui est « Pourquoi les vaches ressuscitent ? Probablement ». On le doit à un dominicain, Franck Dubois, qui part du lapin de sa maman, Cicéron, pour se poser cette question pas si bête. Et les réponses, il y en a pléthore dans la Bible et dans les évangiles en particulier. Les animaux dans l'au-delà, que deviennent-ils? Si l'interrogation peut paraître saugrenue, encore une fois, les pistes de réflexion ne le sont pas du tout, au contraire. Le religieux s'exprime toujours avec humour et recul, bien sûr, mais aussi avec une grande précision et un ancrage biblique solide. Et si l'écologie était non seulement orientée vers la préservation de la planète, mais aussi vers la vie dans l'au-delà. C'est un essai original conseillé par Panorama de novembre, le livre de Franck Dubois, donc je rappelle le titre, « Pourquoi les vaches ressuscitent probablement ?» Vous le trouverez donc aux éditions du Cerf pour 14 € seulement cette fois.
Oui.
Voilà, c'est tout.
Merci Émilie. Eh bien, je passe donc à la partie spirituelle, puisque nous n'aurons pas les fêtes société cette fois-ci. Alors, dans Panorama de novembre, le numéro 567, une conversation avec Martin Stephens, que je ne connaissais pas, un penseur catholique, qui nous dit que Dieu, c'est pas confortable du tout. Il a écrit un livre qui s'appelle « Et si c'était la fin du monde ?» Alors, on lui dit « Mais dans ce livre-là, vous avez l'air de prédire des choses, vous êtes prophète. » Elle dit « Ah non, ça, surtout pas prophète. » Alors, ce philosophe, il s'est converti à l'âge de 25 ans. Il dit qu'avant, il ne voyait qu'une seule chose, réussir. Et ce que les autres pensaient de lui, l'image qu'il donnait de lui aux autres. Et après, il dit, mais j'ai vu le monde tout à fait autrement. J'ai vu la beauté du monde. J'ai vu que le monde était bel et bien beau. Et puis, que finalement, il y avait un lien entre les hommes. Avant, ça m'était complètement, ça me passait vraiment au-dessus de la tête. Alors, finalement, il dit, j'aime bien ce qu'il dit. Il dit, on pense notre vie comme un projet. Il dit, quand on dit ça, ben, on rapporte tout à soi, hein, on se projette. Hein. Bon, mais lui, dit-il, alors ça, j'ai trouvé ça excellent comme image. Il dit, non, notre vie, c'est un projectile.
Pas mal.
Il parle de quelque chose et il va vers quelque chose. Ah, j'ai trouvé que...
L'important,
c'est le chemin. Tout à fait. Donc, ça, c'était dans Panorama numéro 567. Dans le monde des religions. Alors là, c'est novembre-décembre, numéro 98. Un très gros dossier. Noël, comment une fête païenne est devenue chrétienne et inversement. Alors, évidemment... J'ai pas pris tout le dossier, c'est trop
très, fort.
Alors j'ai
très
pris
grand.
La première partie, les origines païennes donc de Noël. Alors on pense que ça se trouve dans le culte de Mithra, ce dieu que les Romains adoraient, ce dieu qui était né dans une grotte un 25 décembre, qui aurait tué, qu'on appelait fils du soleil, il aurait tué un taureau et alors du taureau seraient sortis les plantes, les herbes, le blé, le vin. Et ensuite, il périt, mais il ressuscite et il s'envole vers le ciel dans un chariot de feu. Alors, le Christ, finalement, et Mithra ont en commun d'être revenus d'entre les morts. Et c'est à la faveur de cette concurrence que les chrétiens auraient assimilé les éléments du culte donc de Mithra, très populaire surtout chez les soldats romains. Alors, on souligne que Jésus est né dans une grotte, comme Mithra. Ça renforce la tradition populaire apparue. Cette tradition est apparue chez les judéo-chrétiens orientaux au IIe siècle seulement. Hein.
Seulement, oui.
Seulement au IIe siècle. Et puis de plus, Jésus comme Mithra, il est ressuscité le 25 décembre. Alors la célébration de la naissance de Jésus va s'imposer donc à cette date. Bon, ça n'allait pas de soi, parce qu'en fait, on ne sait pas exactement hein, quand est-ce que Jésus est né. Parce que quand on parle, par exemple, que les bergers étaient dehors, il faisait beau. Alors
oui,
pourquoi est-ce qu'il ne serait pas né au mois de mai? Enfin, je dis n'importe quoi, hein, bien sûr. Bon. Les païens se sont posés, mais alors quand est-ce qu'il est né Jésus? Donc au début du 3e siècle, le philosophe Clément d'Alexandrie nous apprend que certaines communautés d'ailleurs célèbrent la naissance de Jésus, écoutez ça, le 20 mars, d'autres le 25 avril, d'autres le 6 janvier.
Ah oui, donc rien n'était fixé.
Rien n'était fixé. C'est le pape Liber, je ne connaissais même pas ce prénom-là. C'est le pape Liber qui, en 354, fixe définitivement la date de la naissance de Jésus le 25 décembre. Lisez la suite, c'est passionnant.
Passionnant, là je te rejoins tout à fait. C'est un gros dossier qui est vraiment... Mais tu auras peut-être l'occasion de nous en reparler
bien sûr, puisque c'est sur novembre-décembre. Hein. Dans les cahiers croix, oh là là, alors là... De novembre-décembre 2019, dans ces cahiers-là, il y a un thème général. Là, le thème général, c'est « La liberté, une conquête sans fin ». Et ce cahier croire est divisé en plusieurs parties. Je le rappelle, je l'avais déjà dit. Hein. Il y a un entretien, un cahier Bible, un cahier théologique, un cahier pratique, et puis une actualité à la fin. Alors, dans le cahier théologique, la question est posée « Peut-on être libre et obéissant ?»
Ça t'a occupé, me semble-t-il, Lydia.
Ça m'a beaucoup occupé, j'en sais pas. J'en parlais encore cette nuit, puis ce matin. Mais vraiment, hein. Alors, bon, l'article, évidemment, définit ce que c'est que la liberté. Alors, selon Aristote, ça, j'ai bien aimé. La liberté, c'est ne pas, pouvoir ne pas. Et l'article donne un exemple très précis. Quelqu'un, par exemple, de colérique, peut très bien ne pas partir dans des éclats de colère, c'est la liberté. La liberté de ne pas faire quelque chose. Hein. C'est pas comme on dit toujours, votre liberté s'arrête là où commence celle des autres, c'est pas trop ça. Hein. Mmh. Ne pas, j'ai trouvé ça. Ou alors, être libre aussi, c'est résister aux pressions extérieures. Et là, il donne l'exemple du manque de liberté totale qu'il y a dans les sectes.
Bien sûr.
Où la pression extérieure fait que vous perdez non seulement tout sens moral, mais vous perdez
la liberté de penser,
ce que vous êtes, votre conscience, finalement, vous perdez. Alors, faut-il obéir ? On donne l'exemple de, chez Saint-Benoît, par exemple, les moines doivent obéir à leur père abbé. Mais il est précisé, après les avoir écoutés. Le père abbé doit aussi écouter ce que disent les moines.
Ce n'est pas une obéissance aveugle.
Et finalement, l'obéissance, elle ne doit pas aller contre sa conscience. On ne peut pas obéir à quelqu'un si ce qu'on nous demande de faire va contre notre conscience. Ça, c'est difficile quelquefois. Hein. Mais il faut absolument tenir bon là-dessus. Et c'est ce matin, Christophe m'a donné une idée. Il m'a dit finalement, l'obéissance n'est pas la soumission. Et j'ai trouvé ça excellent.
Encore matière à réflexion. Merci Liliane.
Viens te chanter l'homme libre, celui qui parle avec le vent et fleurit les mots qui délivrent pour aller toujours de l'avant. Je veux te dire l'homme rare qui parle avec les yeux du cœur. Viendra rompre tes amarres, je viens te chanter le meilleur. L'homme libre est devant, il espère et attend que tu fasses de ta vie un chemin de paix. L'homme libre est devant, il attendra toujours fleurisse ta vie de bouquets d'amour. Le temps de la septuagésime est une saison de la vie. Pas un abîme, c'est la cime. Celui qui l'atteint fait envie. Avoir vécu 7 fois 10 ans et partager tant de refrains, le goût de la vie et du pain, c'est bien mieux en mélodisant. L'homme libre est devant, il espère et attend que tu fasses de ta vie un chemin de paix. L'homme libre est devant, il attendra toujours que tu fleurisses ta vie de bouquets d'amour. À l'arc-en-ciel de son sourire, il invente d'autres couleurs, une aquarelle d'éclats de rire, empreinte de douce chaleur. Au gré du temps et des voyages, les amitiés se sont tissées. Chaque rencontre est un visage, un coup de cœur éternisé. L'homme libre est devant, il espère et attend que tu fasses de ta vie un chemin de paix. L'homme libre est devant, il attendra toujours que tu fleurisses ta vie de bouquets d'amour.